C'était RM Show, une émission de VOA.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraougo avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 17h à Washington, 21h en temps universel. Les présidents Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal et Nana Akufo-Addo du Nigeria sont attendus jeudi à Bamako, selon un responsable de la présidence malienne, pour des pourparlers en vue de trouver une issue à la crise sociopolitique que traverse le Mali après plusieurs semaines de contestation du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'Ivoirien Alassane Ouattara ira bien à Bamako à confirmer une source présidentielle à Abidjan. Cette annonce intervient au lendemain du départ de Bamako d'une mission de médiation de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, qui n'a pas permis d'aboutir à une solution de consensus. Ce lundi, des opposants au président Keïta ont érigé des barricades dans des quartiers périphériques de Bamako, rapidement démantelés par les forces de l'ordre. En Guinée, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu à Conakry lors d'une reprise de la mobilisation pour empêcher un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Un jeune homme de 22 ans, Amadou Barry, a été blessé par balle au visage alors qu'il se rendait à une manifestation dans le quartier de Amdalaï, fief de l'opposition dans la banlieue de la capitale, ont indiqué un de ses proches et une source médicale. Avec l'apparition de la pandémie de COVID-19, le Fonds national pour la défense de la Constitution, collectif du parti, syndicats et représentants de la société civile, avait suspendu les manifestations. En Côte d'Ivoire, Alternative citoyenne ivoirienne, une organisation de la société civile, a estimé à Abidjan que les conditions ne sont pas réunies pour des élections apaisées à 3 mois de la présidentielle d'octobre, mettant en garde contre une crise. Pulchérie Ballet, présidente d'ACI, a estimé que la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel sont, je cite, deux organes illégaux et proches du pouvoir alors qu'ils organisent et proclament les résultats des élections. L'ONG demande une reprogrammation de la révision de la liste électorale et une grâce présidentielle pour tous les leaders politiques qui ont écopé de peine par contumace, tous les prisonniers politiques et militaires et la facilitation du retour de tous les exilés politiques en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé Maître Ghislain Kikangala en qualité de coordinateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Le président Tshisekedi a aussi nommé un procureur Kisula Betika Yeye Adet à la tête de la cellule nationale des renseignements financiers pour lutter contre le blanchiment des capitaux. En présence du président Tshisekedi, un dernier hommage a été rendu au magistrat Raphaël Yanni, qui a présidé les deux premières audiences du procès Caméré avant de décéder brutalement le 27 mai. L'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sont invités à participer demain à une réunion sous l'égide de l'Union africaine consacrée à la construction controversée d'un barrage sur le Nil, source de tensions entre les trois pays. Le grand barrage de la Renaissance, construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu, rejoint au Soudan le Nil blanc pour former le Nil et est appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. L'Éthiopie le juge essentiel pour son développement économique. L'Égypte et le Soudan, situés en aval, estiment qu'un accord global sur le barrage doit être conclu avant que le remplissage ne débute. Au Zimbabwe, la police a arrêté un responsable de l'opposition et un journaliste en amont de manifestations prévues le 31 juillet pour dénoncer la corruption au sein de l'État. Jacob Ngaïnivume, président d'un parti d'opposition, transformé le Zimbabwe, et le journaliste Hopewell Chinono ont été interpellés séparément à leur domicile à Harare. L'ambassade des États-Unis dans la capitale zimbabwéenne s'est dite très inquiète du sort de Hopewell Chinono, un documentariste qui a travaillé pour plusieurs organisations de presse internationales. Et puis, la Turquie a appelé à immédiatement mettre fin au soutien aux forces du maréchal Khalifa Haftar à l'issue d'une réunion avec les ministres du gouvernement de Tripoli et de Malte à Ankara. Le ministre turc a indiqué qu'Ankara va poursuivre sa collaboration avec le gouvernement d'Union nationale en matière d'entraînement, de coopération et de conseil militaire. Cette déclaration du ministre turc intervient au moment où l'Égypte menace d'intervenir militairement si le gouvernement d'Union nationale avance vers la ville stratégique de Sirte. Ici, aux États-Unis, des milliers d'employés jugés essentiels pendant la pandémie ont appelé à manifester dans une vingtaine de villes pour dénoncer les inégalités raciales et réclamer l'adoption d'un plan fédéral qui les soutienne financièrement. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain sera dans 55 minutes. On se dit à tout de suite. Bye bye.
Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michel. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name? Quel est votre prénom? À vous de me répondre. What is your first name? What is your last name? Quel est votre nom de famille? Répondez-moi. What is your last name? Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, please call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary, when speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms?
When should we use, quand doit-on se servir de? When should we use Miss, Mrs. or Ms? Miss, mademoiselle, ou comme le dit Gary, for single women, pour les femmes célibataires. Single women, les femmes célibataires, miss. Ou bien, Mrs., madame, for married women, pour les femmes mariées. For married women.
Well, miss is for single women, Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms., un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.?
Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. English USA vous présente African Voices in Conversation. Des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Bala est le tailleur le plus populaire de son quartier. Aujourd'hui, sa cliente et cousine, Rama, lui rend visite. Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu. Vous répondrez par vrai ou faux, true or false, à ces énoncés. 1. Rama voulait une jupe. 2. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Vous allez maintenant répondre à ces trois questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? 2. Pour qui sont les boubous selon Bala? 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Vous entendrez comment exprimer un choix avec « I'd like to ». Vous entendrez comment se plaindre en utilisant l'expression « n'est-ce pas » en anglais? Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu.
Hello, Bala. I want you to show me all your styles. Have you got catalogs? Let me see them.
Right away. My customers are all kings and queens in this shop.
Oh, Bala, stop it. You haven't finished my dress, have you?
I'm at the service of my royal clients. I do things the way they want it.
What is this? Is this a dress or a skirt? It looks like a child's dress.
It's not. It's a young girl's mini dress with beads and a scarf.
How lovely. It's very nice. I'd like you to make me a dress like this with flashing beads and colorful embroidery.
Like a rainbow. Is it going to be for you or for your daughter?
For me. I have no daughter and my son is only 2 years old. I am still young.
Don't get angry now, Rama. I'm gonna make it.
Before I forget, where's the boubou I asked you to make last week?
Rama, you've got so many fabrics here. You always change your mind, don't you?
I told you to make a boubou from the wax fabric I brought last week. You didn't keep your promise, did you?
It will be ready tomorrow. It's for your old grandmother, right?
I told you it was for my mother-in-law. Instead of a mini dress, I'd like a mini skirt. And don't forget my mother-in-law. I'd also like an evening gown for her.
What does your mother-in-law need an evening gown for?
Come on, Bala. She's not that old. She's going to see her husband after 4 years of separation.
All right, then. I'll make it. Anything for love. Say, Rama, your father-in-law needs a boubou as well, doesn't he? I can make one for tomorrow.
Yeah, Allah. So many things to make. You don't want to be overworked, do you?
Hey, as long as I get paid.
Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama. L'énoncé 1 est faux. Rama voulait une jupe. L'énoncé 2 est vrai. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Voilà les réponses aux questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? Non. 2. Pour qui sont les boubous, selon Bala? Pour les personnes âgées. 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Pas encore. Vous avez entendu Rama dire
« I'd like a mini skirt ».
On peut exprimer un choix en utilisant l'expression « I'd like ». Écoutez les autres exemples. « I'd like to take the red dress ». « I'd like to visit the stadium, not the school ». « I'd like to drink tea. I don't drink coffee ». Vous avez aussi entendu Rama et Bala dire
« You haven't finished my dress, have you ?»
You always change your mind, don't you?
Pour dire « n'est-ce pas » en anglais, elle a utilisé le tag question ou forme « n'est-ce pas ». Lorsque la phrase est négative, le tag question est affirmatif. Lorsque la phrase est affirmative, par contre, le tag question est négatif. Voilà des autres exemples. Rama was angry, wasn't she? Bala made the dress, didn't he? Répétez maintenant ce vocabulaire de la couture et de la mode. Modèle, styles. Jupe, skirt. Foulard, scarf. Robe, dress or gown. Perles, beads. Broderie, embroidery. Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama exprimer un choix avec « I'd like to ». Vous avez aussi entendu comment dire « n'est-ce pas » en anglais et entendu des mots relatifs aux vêtements. On se donne rendez-vous chez Bala, le tailleur. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov. Ici Michel Joseph. Hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait! Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h temps universel sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com et en ondes courtes le samedi et le dimanche à 20h temps universel. Ne ratez pas English USA. Aujourd'hui, Martin Lerner fait une interview avec un professeur d'histoire. Today, Martin Lerner is interviewing a history professor. Il lui pose des questions sur la guerre civile américaine. He's asking him questions on the American Civil War. Tous les deux se trouvent dans un champ de bataille. They are in a battlefield. Au cours de cette leçon, vous apprendrez à comparer des événements différents. Dans le présent, dans le passé et dans une même époque. English USA est diffusé en direct de Washington au micro Michel Joseph. Vous allez apprendre à comparer des événements qui se sont déroulés dans le passé. Martin Lerner parle avec un professeur d'histoire américaine, a professor of American history. Au sujet de la guerre civile. About the Civil War. Il dit: A group says the reason was slavery. Un groupe de gens disent que la raison de cette guerre était l'esclavage. A group says the reason was slavery. Some say it was economics. Certains disent que c'était à cause de raisons économiques. Some say it was economics. Lors de la guerre civile américaine, on appelait les habitants du Nord the Northerners et ceux du Sud the Confederates. Écoutons maintenant la conversation entre Martin et le professeur.
I wanted you to see the battlefield. I see what you mean. It's just open area. It was field. There were farms here and a few houses. Where did the battles take place? Everywhere you can see. Soldiers from the north were on that hill. Soldiers from the south were over there, somewhere in front of those woods. In fact, where those men are right now. Yes, those men who are firing guns are acting out the early part of the battle. They are pretending to be soldiers during the Civil War. Professor Atkins, why did the war begin? That's a very difficult question. People seldom agree on the reasons for a war. Historians are still arguing about the reasons for the Civil War.
I suppose there are usually many reasons.
Yes. One group says the reason was slavery. Another group says it was politics. And another group says it was economics.
That's quite a few reasons.
We look at those reasons differently, too. At the time of the war, people saw them one way. Now we see them another way.
Let's talk about the people. I'm always interested in people. Tell me about the people first.
We know quite a lot about the soldiers. There were so many.
How many?
There were about 4 million soldiers.
From both sides, the North and the South?
Yes. But remember, they were all Americans.
Of course. That seems like a lot.
It was. More than 600,000 soldiers died in the war. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas, like this.
Explain that, please.
The battles were often on farms. The soldiers were on hills and in valleys. They didn't fight in the cities.
In modern wars, they fight everywhere.
Pour comparer deux événements, on les place dans une période déterminée. Lorsqu'on parle, par exemple, de Civil War, et on dit de la guerre civile, et on dit more than 600,000 soldiers died. Plus de 600 000 soldats sont morts. On peut aussi parler d'une autre guerre et du nombre de soldats tués par rapport à celle-ci. Par exemple, in the Civil War, more than 600,000 soldiers died. In the First World War, dans la Première Guerre mondiale, un tel autre nombre sont morts. Écoutez les exemples qui suivent.
In the Civil War, more than 600,000 soldiers died. More recent wars have been worse for civilians. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas. In modern wars, they fight everywhere.
Répondez aux questions de Martin et commencez vos réponses en mentionnant une période déterminée. Il vous demandera, par exemple, where were you living 1 year ago? Où viviez-vous il y a un an?
More than 600,000 died in the Civil War.
About 116,000 died in World War I.
Most of the battles were in Europe.
There were none in the U.S.
Essayez de répondre aux questions de Martin, mais écoutez d'abord l'exemple qui vous est donné. L'exemple. Martin dit quelque chose et le professeur répond aussi en disant quelque chose d'autre. Toujours en parlant dans le passé. Donc c'est une comparaison. 45 people lived in this building. 45 personnes vivaient dans ce bâtiment. Le professeur dit lui aussi. 15 people lived in that building. Une quinzaine de personnes vivaient dans ce bâtiment. Maintenant, à vous d'essayer.
45 people lived in this building.
15 people lived in that building.
On Monday, I go to work.
On Monday, I go to work. Vous pouviez dire, on Friday, I go to work.
I lived in Chicago.
Et vous pouvez répondre, I lived in Kinshasa.
On Friday, we went to town.
Et vous pouvez dire, on Saturday, we went to town. On entend souvent dire que tout change. Vos parents, par exemple, vos grands-parents décrivent leur vie, leur enfance, comme si c'était un autre monde. Et ils ont raison, la vie change rapidement. Donc, au lieu de faire la comparaison d'une guerre, pensez plutôt à votre vie en la comparant à celle de vos parents ou à celle de vos grands-parents. Comparez les changements que vous observez. In the meantime, entre-temps, have a great practice.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Hello and welcome to Anglais Télé. Bienvenue à Anglais Télé. I have some guests today with me. Can you introduce yourself?
Hi, my name is Yubin Kim, and I'm from South Korea, and I'm here to intern in Voice of America Korean Service Team.
Wonderful, thank you. And we have my fellow colleague.
That's me, Roger Muntou, and it's a pleasure to be here with Michelle, and I'm glad to be again today.
Thank you, I've missed you.
I miss you too.
And who are you, my dear?
Hello everybody, and I'm Heva Pekenaru.
Wonderful. So we have a full table here.
That's right.
And I think we have a lot of guests also on the other side of the world. And today we're going to talk about the expression to have. To have. En français, avoir. Le verbe avoir. To have. Which is one of the most important idiomatic expressions in English, along with to be. Mm-hmm. Would you agree with that?
I totally agree. I totally agree, Michelle. I think you're right. Our students have to understand that to have and to be are extremely, extremely, and I insist, important in the English language. But today, as Michelle said, we are focusing, I guess, first on to have.
What would we be without to have? I don't think we'd be anything.
We can't imagine what we'll be without to have.
So right. Maybe we should start by conjugating the verb to have. Why don't we start with you?
Present?
Yes, present tense.
I have, you have, he has, or she has, we have, you have, and they have.
Okay. Now, to have, there's a more familiar way of saying to have. It goes very quickly by in the ear. Do you have an idea, Yubin?
To using have, to have?
Yes, but there's a very quick, familiar way of saying the same thing as I have. Instead, you say...
So do you know another way, Yubin?
Mm-hmm.
What Michelle is trying to see if you know of a different way mm-hmm. of saying I have, right, Michelle? Without using have.
Right, in a familiar way.
In a familiar way. Something that we use a lot in America, in English, American English.
I get, to get.
To get. Let's keep a piece of the to get.
Mm-hmm.
Let's speak. Okay, so let's say, hey, I have a lot on my mind today.
The verb that she used mm-hmm. was correct. That's very good. Mm-hmm. To get is correct, and that's what Michelle's trying to say. But we say, I've got.
Yes, I've got.
It's
a strange
I've
thing.
Got. So I've got to put a contraction.
Yes.
It is a contraction of, like Michelle say, I've. Yes. If I have.
I have.
Got. So that you say, I've got.
I've got. And it's kind of repetitive because got and have, it means the
mm-hmm.
same thing.
Mm-hmm. Mm-hmm.
But it's kind of like putting a stamp mm-hmm. on it. I've got. I have. You can say the same thing. So do you want to try that conjugation again? But this time with I've got.
Mm-hmm.
Do you want to try it?
So now you're still going to use it in present because
yes.
you did conjugate the verb to have in presence, like Michelle asked you. Now you have to conjugate to have got.
Okay. I've got. You have got.
Yeah, good.
No, that was good.
Good. Yeah, that was good.
She's got. She's got.